Arrestation.
Hermano.
Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Ravi de vous retrouver sur les antennes des Radio Campus Orléans et Tours. À bâton rompu démarre une nouvelle saison ce mardi avec le décryptage du mensuel Le Monde Diplomatique, comme nous le faisons ensemble depuis quelques années maintenant. En studio avec moi ce soir, Asma. Bonsoir Asma.
San, bonsoir. Bonsoir à tous.
Asma qui est impatient de revenir. Vrai ou faux?
Oui, vrai.
Elle m'a envoyé 10 mails. C'est quand on revient là? Bon. Ton choix d'article dans le Diplo de septembre, l'offensive culturelle de l'armée française, ou comment la grande muette communique pour rendre la guerre aimable. Ah, c'est ça le sous-titre.
C'est ça.
Bref. ouais, la guerre aimable. C'est un article de Thomas Jusquem. On écoutera ça en début d'émission. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Bon retour à toi.
Merci.
Tu nous parleras de l'article sur le Somaliland.
C'est ça.
Petit pays autoproclamé de la corne de l'Afrique. Pardon.
Oui.
Je perds ma voix dès le début.
Oui.
C'est un pays qui existe depuis 1991.
C'est ça.
Qui est non reconnu par la communauté internationale à part
l'Israël, bien sûr.
Pourquoi donc?
On le découvrira dans l'article.
Absolument.
À suivre, absolument. Pierre est présent ce soir. Bonsoir Pierre.
Bonsoir à tous. Salut Hassan.
Tu nous présentes un article en une.
Et ça chauffe.
Ah là là. Et dont le titre fait peur, La fin qui vient, qui est lié au bouleversement climatique auquel nous assistons.
La fin FAIM.
C'est
la
ça.
La fin FAIM.
Je vais le préciser, ouais. La fin qui vient. Moi qui voulais me spécialiser pour les articles positifs.
Oui, c'est ça.
Et gays et joyeux.
Mais non, justement, alors, Henri, bonsoir.
Bonsoir.
Justement, les articles de ce diplôme sont riches, hein, comme on se plaît à le dire, depuis quelques années.
À nouveau en septembre 2026.
Oui, mais riche, mais à l'image de la période, traite de sujets angoissants.
Oui.
Et puis, la crise climatique notamment. Et puis, le dossier sur l'Allemagne, avec ce titre. Une Allemagne prête à la guerre.
Une Allemagne prête à la guerre. Et oui, rassurez-vous, les Allemands ne vont pas à nouveau attaquer la France. Nous ne sommes plus leur premier ennemi.
Mais
effectivement, dans ce dossier que d'ailleurs on abordera peut-être aussi le mois prochain avec Marie-Pierre, qui est souvent avec nous et qui connaît bien l'Allemagne et qui est en Allemagne d'ailleurs en ce moment. Néanmoins, bon, ce dossier... Effectivement, l'Allemagne se réarme et consacre donc des milliards et des milliards d'euros pour à la fois engager des troupes et puis aussi pour fabriquer du matériel militaire. Alors c'est vrai que les Allemands sont aux premières loges en quelque sorte ou presque avec la Russie si menaçante puisque l'ennemi numéro un à ce moment-là, c'est évidemment comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus la France, c'est l'Allemagne, c'est la Russie. Et donc les Allemands se préparent et ont voté 114 millions d'engagements pour leur défense, ça a été voté en 2025. Et donc, au niveau des dépenses militaires, ils sont au quatrième rang mondial,
absolument,
ce qui est impressionnant,
absolument,
derrière évidemment les États-Unis, la Chine et la Russie. C'était un mauvais sujet en Allemagne pendant longtemps de favoriser l'armée. Ils avaient laissé tomber l'armée. Et d'ailleurs, les Occidentaux et les Américains en tête après la Deuxième Guerre mondiale leur imposaient évidemment de ne pas s'armer.
Mais c'est ça, il y avait une sorte d'obligation comme ça depuis la guerre. Hein. C'est pour ça qu'en lisant le dossier, j'ai été épaté par les chiffres, l'argent qu'ils mettent dans l'armée. Et je n'ai rien vu des autres puissances se dire « Mais non, mais on vous avait déjà dit que depuis la guerre, vous n'aviez pas le droit de... »
Eh oui, mais donc M. Merz a devancé ton interrogation et dit « Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas non plus en paix. » Voilà. Donc, il s'arme. C'est donc une escalade, évidemment, pour faire face à la Russie. Et personne ne proteste beaucoup, d'ailleurs, dans le pays, à part Die Linke. les autres partis allemands concèdent qu'il faut s'armer. Alors, dans un autre article de Joshua Ratz, on explique aussi que finalement, ces commandes militaires importantes, très importantes, permettent à Berlin donc de contrecarrer ce qui marche moins bien maintenant au niveau de leur économie, et notamment l'industrie automobile. Ils sont obligés de licencier, ils licencient beaucoup, Volkswagen, etc. Et même BMW, qui est souvent le premier élève de la classe, eh bien, licencie aussi. Et donc, ils pensent que, à tort d'ailleurs le dit Joshua Hartz dans son article, et ils pensent qu'ils vont compenser ce manque d'activité industrielle au niveau des voitures, des machines-outils et d'autres qu'ils exportaient énormément. Ils vont compenser avec l'automobile. Pas l'automobile, mais au contraire, les armes. Et donc, ils ne vont pas arriver pour autant à rééquilibrer les choses. Et ils espèrent néanmoins, comme ça, ils ont maintenu des emplois, alors que les constructeurs automobiles licencient. Il y a des ouvriers qui partent de l'automobile vers l'armement. Et donc, comme ça, ils sauvent des emplois. Et effectivement, du coup, cette stratégie n'est pas très contestée en Allemagne. Et alors, il y a un article aussi de plusieurs auteurs qui suit du train au Panzer, une amère reconversion. Et oui, parce qu'ils fabriquent donc de plus en plus d'armes, je viens de le dire, notamment des chars. C'était un peu une spécialité allemande. Donc si vous voulez un char vraiment puissant et qui a toutes les innovations, vous prenez un Léopard 2. Enfin, c'est pas facile à garer, hein.
Ben non, c'est...
Surtout avec le canon.
Mais clairement pas, clairement.
Mais voilà, donc tout ça fait les affaires d'une grande société allemande, Rheinmetall,
oui.
qui là, évidemment, engrange des bénéfices colossaux. Ces quatre auteurs, Léa Fauth, Fabien Greger, Nicolas Franzen et Paul Welsch-Guerra, soulignent d'ailleurs avec beaucoup de pertinence que est-ce qu'ils vont donner une telle armée surpuissante à un pays qui vient de voter pour l'AFD, au moins dans un land.
C'est bien la question que je me suis posée lundi matin.
Et voilà. On n'aime pas bien quand ces gens-là sont armés, justement. L'AFD, pour la petite histoire, on y reviendra peut-être le mois prochain aussi, qui quand même est tellement à droite que même Marine Le Pen est choquée de certaines de leurs positions.
Et on se disait avant de rentrer en studio, même Robert Ménard, qui est choqué de... qu'il y ait un parti nazi, il disait, qui gagne une région importante en Allemagne.
Ah oui, et ils sont par exemple, ils estiment que finalement le petit Adolphe, il est sympa, c'était un bon garçon.
C'est ça.
Enfin, il pouvait avoir de bonnes idées. Bon, des fois, il cassait ses jouets, mais c'est inquiétant quand même que ce parti très outrancier prenne le pouvoir. Encore une fois, on y reviendra peut-être le mois prochain. Donc ça, c'est le dossier sur l'Allemagne qui est dans ce diplo donc du mois de septembre. Mais faut pas qu'on s'inquiète. Faut pas qu'on s'inquiète, c'est un article, Pierre aime les... Alors oui, évidemment, je suis ironique, il aime les articles positifs,
c'est ça.
Donald Trump contre le péril rouge.
Oui, bien sûr.
Heureusement, Donald est là et va sauver la Terre entière. Bon, évidemment, c'est de la pure ironie. C'est quand même... il est rappelé dans cet article de Serge Halimi que Donald Trump, c'était le président qui devait mettre fin aux guerres.
On est d'accord.
Aux guerres sans fin, justement. Il avait trouvé la fin, lui.
Il en est encore persuadé, là. Il dit tout le temps maintenant, j'ai mis fin à 8 guerres dans le monde et j'ai pas eu le prix Nobel.
Ouais. Ouais. Et donc, voilà. Alors, comme il échoue quand même, quand on veut quand même parler de ces guerres qui devaient s'arrêter, hein, c'est pas lui qui l'a déclenché, mais en Ukraine, en 3 semaines, c'était fait.
C'est ça, c'est ce qu'il dit.
Là, avec l'Iran, il tue 2-3 mollas et hop, je vous ai libéré, ils sont tellement libérés que les mollahs sont toujours là et que le conflit continue. Et donc, du coup, il faut se trouver un autre ennemi. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, il y a des terroristes communistes.
Eh oui.
Ils ont trouvé l'ennemi numéro un, au moins sur le plan interne, parce qu'il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, qui n'a pas été d'ailleurs tué par un terroriste communiste ou autre. Et puis, il y a quand même un socialiste qui dirige New York. Mamdani. Dans ce cas-là, c'est quand même, ça va pas, quoi.
Et il y a certains qui vont gagner des postes. Hein. Les prochaines élections se présentent mal pour les Républicains. Et le Parti démocrate a aussi un problème, c'est qu'il y a des gens qui commencent à dire, tenez-vous bien, ce sont des gens qui sont plutôt, ici on dirait les socialistes, hein, à la Hollande, mais aux États-Unis c'est des rouges.
C'est des rouges. Ah oui, oui. Ah oui, il faut se méfier, hein, du péril rouge. Oh là là.
Oh là là, oui.
Et donc Donald Trump, il s'est notamment insurgé contre un projet, ou peut-être un impôt qui est peut-être déjà passé, enfin c'était dans les tuyaux, parce que Mamdani veut mettre une taxe sur les résidences secondaires pour financer les programmes sociaux. Non, ça ne sera pas.
C'est
trop rouge, c'est pas possible. Et donc, on cite toujours évidemment les extrémistes de gauche, mais dans son article, Serge Halimi fait remarquer que depuis 1990, les extrémistes de droite ont commis 5 fois plus d'attaques et 7 fois plus de morts que l'extrême gauche. Voilà, CQFD. Alors donc, Donald veut. Est-ce qu'il va nous sauver? C'est pas sûr. Et donc. Dans ce diplo, il y a beaucoup d'articles. Encore une fois, je ne peux pas tous les citer. Bon, nous, en interne, on a de la chance. On a le soldat du feu numéro 1, Emmanuel Macron. C'est l'article qui est à la fin de ce diplo, tabasser les pompiers. Et oui, parce que donc il a repris son costume de chef de tribu en quelque sorte, et donc il nous explique, on a été en guerre, on connaît, hein, contre le Covid, et maintenant on est en guerre évidemment contre les méga feux. Qui ont fait brûler une bonne partie de la France cet été. Et donc, Romain Pudal, l'auteur de cet article, nous fait remarquer qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi souvent des volontaires, qui d'ailleurs assurent 70% des interventions. Et il sort un peu du contexte des incendies, et il nous explique que quand même les pompiers, ils ont vu leurs interventions augmenter de 30%, au moins en 20 ans, parce que faute de soins, faute de médecins, surtout en milieu psychiatrique, les pompiers sont souvent appelés en urgence, et parce que de l'autre côté il manque de travailleurs sociaux, de médecins, comme je viens de le dire, et donc ça nous fait quand même une intervention toutes les 6,6 secondes pour les pompiers, qui, quand ils manifestent, sont tabassés comme tout autre manifestant. Et ça n'empêche pas le gouvernement qui, quand même, on a appris au moment des feux que M. Attal, ex-premier ministre, avait décommandé des Canadairs.
Il n'y en a pas besoin. Mais non, il dit que non.
Il leur a acheté 2-3 tuyaux et il a dit ça suffit comme ça. Mais enfin, l'intention était, alors est-ce que ça va passer quand même dans les fêtes ou pas, mais qu'en 2026, il fallait moins dépenser dans ce domaine qu'en 2025. Malheureusement, les incendies mettre un peu à mal cette stratégie budgétaire. J'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt un article de Ziad Majed, Recomposition stratégique majeure au Proche-Orient. Vous n'y comprenez rien, il faut non seulement le lire une fois, mais sans doute deux fois.
Enfin,
après, ça dépend des capacités de chacun.
Absolument.
Moi, j'avoue qu'il me fallait deux fois. C'est vrai que, en gros, pour résumer ce qui pas facile à résumer, c'est que il y a deux axes qui se manifestent. C'est vraiment très intéressant à lire parce qu'on voit les pays qui se défient, qui se font des choses trappes, qui pactisent avec l'ennemi de l'autre. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc on a un axe, deux grands blocs, un ensemble indo-émiro-israélien, donc les Émirats arabes unis et donc Israël, et un autre axe pakistano-saoudo, turc, de l'autre côté. Et vous avez les États-Unis qui, au milieu de tout
ils
ça,
sont au milieu,
essaient de composer avec tout le monde, puisque pour les États-Unis, il y a dans ce coin-là du monde, il y a un un ennemi principal, c'est l'Iran, mais derrière, évidemment, c'est la Chine. Il faut qu'à chaque fois que se méfier que la Chine n'amène pas toutes ses billes et n'arrive pas à tirer profit du conflit. Et donc, comme le fait remarquer d'ailleurs Ziad Majeb lui aussi à son tour, ben, ce conflit en Iran qui devait durer quelques jours, on tue quelques mollahs encore une fois et puis on est comme ça, on est libéré. Eh bien, donc le régime iranien est toujours en place et il a répliqué de manière très, on va dire, très pertinente pour ses propres intérêts, c'est avec le détroit d'Ormuz. Évidemment, dans ce cas-là, ils ont un levier pour faire un peu, comment dire, faire parler tout le monde et mettre tout le monde à mal. Et donc là, c'est assez phénoménal. Et donc, ils arrivent comme ça à exister, et même de belle manière pour ce qui est de leurs propres intérêts, vis-à-vis des Américains et d'Israël. Et il y a aussi le Pakistan qui est très inquiet, parce qu'ils ont une longue frontière commune avec l'Iran. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas envie que l'Iran bascule dans un régime qui serait moins maîtrisé. Et donc, du coup, finalement, cet été, il a fait beau pour les mollahs.
Et bien sûr. On est absolument d'accord.
Voilà. Donc, c'est un certain nombre d'articles de ce diplôme. Je n'ai pas encore tout... Je ne peux pas tous les citer, mais évidemment, c'est une lecture à reprendre si jamais vous l'avez lâché.
C'est absolument ce qu'il faut faire. C'est lire le diplôme chaque fois qu'il faut, chaque fois qu'il sort. Celui de septembre, je disais, article riche, mais parfois un peu d'angoisse sur le monde qui vient. Le monde qui vient n'est pas si beau que ça. On commence à dire aux jeunes, revenez dans l'armée. Revenez dans l'armée. On en parle dans un instant. Après, ceci, il y a de la beauté quand même sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours. C'est un choix que tu as fait, Henri, c'est les sœurs IBI.
Oui. Elles nous parlent de la tendresse d'un mot. Alors, les mots peuvent être terribles hein, aussi, mais là, il y en a des beaux aussi.
IBI, nouvel album, Offering, sorti le 26 juin dernier.
Si tu échanges, je resterai la même.
Quelle beauté.
Depuis des années, je t'aime. Je t'en veux pas, y'a pas de blame. Je serai là, quoi que tu deviennes. Je suis fidèle, tu le sais. Qu'importe l'échec. Et s'il se lasse, te délaisse, n'oublie jamais que je reste. C'est beau, la tendresse d'un mot. C'est please.
c'est beau ça, hein, hein. IBI, les sœurs IBI, Lisa et Naomi Diaz, elles sont les filles de Anga Diaz, qui est un percussionniste cubain fameux. Il faisait partie, hein, de l'aventure, je vous disais, avant de rentrer en studio, de Buena Vista Social Club. En fait, il était derrière, hein, il n'était pas avec les tontons. Et elles sont d'origine cubaine, vénézuélienne et tunisienne. Hein, il y a ce beau mélange qui fait aussi la beauté de ce qu'elles font et de ce qu'elles sont. À bâton rompu, on... Alors, il y a un truc qui va pas du tout. Là, je démarre, là, je suis un peu perdu. Là, ça devrait être bon.
À bâton rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
Nous sommes international, nous sommes Alter. Nous allons parler maintenant de l'armée qui communique à mort à Sma sur pour
c'est
faire venir les jeunes.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tu le dis gentiment encore. Hein.
Oui, non, mais l'article fait peur.
Oui,
enfin, j'ai
très
eu,
très peur.
J'espère que tu vas le rendre de façon à donner de l'espoir, comme Henri voudrait.
Je sais pas, je vais essayer.
Qu'on ait tous de l'espoir.
Oui.
C'est un article donc de Thomas Jusquiam qui s'intitule « L'offensive culturelle de l'armée française ». C'est un article important, très important même, il est dans les premières pages et qui fait peur, très peur même. Il parle de comment l'armée française et les ministères de la Défense s'impliquent et se donnent du mal, beaucoup de mal, pour rendre l'armée enviable, pour inciter à l'engagement. Dans l'introduction de l'article, Thomas Jusquiam écrit, je cite, « Comment rendre la guerre aimable ?» Il cite aussi un slogan lancé en 2010, peut-être que vous l'avez déjà entendu, moi
mais
je
l'avais entendu
voilà,
à l'époque.
Ça m'avait marqué. À l'époque, j'en riais, maintenant je...
Devenez vous-même.
Devenez vous-même. Ce qui était déjà un slogan discutable, emprunté à la psychologie positive et au développement personnel dont les jeunes d'aujourd'hui sont assez...
Ah mais non, mais à l'époque, je ne l'avais pas analysé comme ça, parce que je ne suis pas très malin.
Ouais.
Je suis pas très malin non plus, j'avais trouvé ça drôle.
Ouais.
On dit ça des jeunes,
moi
devenez
aussi,
vous-même
ouais.
en rentrant dans l'armée. C'était juste en me disant, l'armée, j'en ferai jamais. Devenez vous-même.
Il y a
quoi ?
Il y a une grande liberté qui leur est réservée, quoi. Tu peux faire ce que tu veux.
C'est ça, mais devenez vous-même.
Mais depuis ces dernières années, donc, les procédés ont monté d'un cran et passent par le monde des arts, du cinéma, du divertissement, du jeu vidéo, pour atteindre la psyché des jeunes hommes potentiellement candidats. Et même les festivals convoités par les jeunes. En mai dernier, s'est tenu le Cercle Festival, un événement musical sur l'ancienne base aérienne du Bourget. Ça consistait à créer un événement où des jeunes pouvaient se prendre en photo au milieu d'un festival musical, en même temps qu'ils faisaient la fête, se prendre en photo à côté d'un chasseur supersonique, modèle d'assaut, étendard IVM, je ne peux pas vous préciser, je ne peux pas vous en dire plus, un gros char, quoi, peut-être, hein, capable de transporter 2400 kilos de bombes, voilà, en guise de slogan enviable. Mais ce que cet article met en avant, c'est surtout l'invasion du cinéma par les institutions qui font la promotion de la guerre. En 2016, c'est Jean-Yves Le Drian qui crée la mission cinéma afin de, je cite l'article, « travailler à la promotion des sujets de défense auprès des créateurs du 7e art
».
Y permettre entre autres donc, de rendre disponible du matériel de guerre, ça existe depuis longtemps, du matériel de guerre, des décors plus réalistes pour les tournages, jusqu'à là, bon, c'est rien de très choquant. Ils organisent aussi des formations données par des militaires pour aider les scénaristes dans leur création. Donc ils interviennent donc à même, ils envahissent la création, la démarche artistique, créative des scénaristes. Ils organisent aussi des journées, en tout cas ils proposent, pour le dire gentiment, j'ai un autre mot qui me vient à l'esprit mais je ne vais pas le dire. Ils organisent aussi des journées découvertes avec une immersion sur le terrain, l'exercice de la guerre, pilotée par le ministère des Armées. Toutes ces initiatives sont menées par la MCIS, la Mission Cinéma et Industrie Créative, dirigée par Evelyse Blanc-Deleuze, dont la mission consiste à, je cite, « sensibiliser les producteurs et diffuseurs aux enjeux des armées ».
T'as qu'à voir.
Pour elle, il y a deux mots tabous, propagande et censure.
Oui.
Elle a dit dans une interview à la Revue de la Cité en janvier dernier, « Si un scénario montrait un comportement totalement interdit par la Convention de Genève, on expliquerait pourquoi cette scène n'est pas crédible. Ils interviendraient donc dans la création du film ». Ce que Thomas Jusquiam a fait suivre dans cet article, des mots suivants, je cite encore, « Peu de chance donc de voir accepter un script dépeignant les tortures, par exemple.
Ben » oui.
Les tortures, c'est juste un exemple. Les tortures de l'armée française sur le peuple algérien pendant la guerre d'indépendance, par exemple.
Pourquoi
parmi
faire
d'autres.
Pourquoi
ou même, faire il cite un autre exemple d'un film qui n'a pas eu le soutien du MCIS, car, je cite, « Dans le film, dans le scénario, le commandant était un salopard.
les trois soldats de l'armée de terre, un dealer, un alcoolique et un frappadingue. Vous pensez bien qu'on n'allait pas aider un tel projet.
Ah ben, bah, on a des chances, on peut s'engager.
La directrice serait plus enthousiaste à l'idée de voir ce qu'elle appelle un Top Gun à la française, un film qui donne envie de s'engager. Il touche aussi au monde du jeu vidéo. Dans l'enceinte Ballard à Paris, qui est le siège des états-majors de l'armée, s'est tenue une conférence sur l'e-sport, le nouveau théâtre du soft power. J'ai pas tout compris, mais je fréquente pas le milieu du jeu vidéo, peut-être. Où des militaires, ou en tout cas, sont venus en treillis, ont pu jouer à des jeux vidéo avec les jeunes qui étaient là. Les jeunes ou moins jeunes, en tout cas plutôt les garçons. Ou encore un commandant relatait les exploits d'une équipe d'e-sport militaire dans League of Legends, pour montrer que les militaires sont très fortes, League of Legends. Car la vérité, en fait, derrière tout ça, c'est que les quotas de recrutement, ils vont mal.
Oui, bien sûr.
Depuis 2018, une augmentation de 70% des militaires qui ne renouvellent pas leur contrat d'une année à l'autre. Tous les ans, 1500 militaires quittent leur poste pour cause d'ennui ou de sentiment d'inutilité. C'est cette cause-là, l'ennui ou le sentiment d'inutilité. C'est pour ça que la Marine nationale donc, a engagé 6 millions d'euros sur un budget qui en comptait 10, dont il dispose de 10 millions. Sur les 10 millions, il y en a 6 qui sont consacrés à l'achat d'espaces publicitaires. Pour Florence Parly, ancienne ministre des Armées, il faut, je cite, « brouiller la frontière entre la réalité et l'imagination ». Elle avait lancé en 2020 un projet
Ces gens sont dingues.
Mais oui.
Désolé de le dire comme ça. Mais
tu vois que c'est pas...
Cette partie-là, je l'ai pas lu dans l'article. Florence Parly.
Oui, brouiller, il faut brouiller. C'est l'enjeu. Brouiller les frontières entre la réalité et l'imagination. D'où le terrain de la science-fiction. C'est le terrain parfait pour ça.
Ouais.
Elle avait lancé en 2020... Une science-fiction, on adhère. Un cinéma, on adhère. On rentre dedans.
Évidemment.
Elle avait lancé en 2020 un projet de création d'œuvres de science-fiction dans l'idée d'imaginer des conflits de demain et d'anticiper des défis technologiques et militaires et créer une sorte de fascination technologique. C'est à l'aide de données confidentielles que ces images projettent le futur des conflits, peut-être prévus, je ne sais pas, anticipés entre 2030 et 2060. Comme, je cite l'article, « des nations pirates nées de réfugiés climatiques et d'activistes contre lesquels il faudra opérer des ripostes militaires ». Des nouveaux ennemis, des nouveaux peuples ennemis, je ne sais pas. Ou encore des guerres spatiales entre robots autonomes, pour créer une espèce de fascination pour la guerre, pour le conflit. Ou encore des implants neuronaux qui sont injectés dans le cerveau et qui injectent des compétences techniques directement dans le cerveau pour impulser un comportement de parfait militaire. Bon, je n'ai pas tout suivi, quand ça va trop loin. Un implant neuronal, pour moi,
pour que l'alcoolique devienne sobre.
Devienne le frappadingue pour faire la guerre. Assez frappadingue pour faire la guerre. Voilà, bon, on rit, mais en tout cas, cet article, il fait très peur. Ce sont nos ministres, nos hauts dirigeants qui font ces choix d'investir des millions dans ce qui peut se jouer des pulsions morbides des jeunes, du manque de transcendance des adolescents, qui se tournent souvent vers ce qui les excite à un jeune âge plus que ce qui les épanouit. Voilà.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
Non, moi non plus.
C'est pas pour vous fâcher.
La version de Boris Vian.
Ouais, c'est Boris. C'est Mouloudji, hein, je crois, qui a fait cette
Mouloudji l'a chanté.
Et d'ailleurs, tu sais que t'as une anecdote sur la fin de la chanson.
Oui.
C'est qu'en fait, dans le tirage originel de la chanson, à la fin, il dit prévenez vos gendarmes, mais dites-leur que je suis armé et que je pourrais tirer.
Ah ouais.
Cette version-là a été censurée.
Ouais, évidemment,
elle a été censurée et du coup, pour garder le côté message pacifiste, ça a été transformé en prévenez vos gendarmes, mais sachez que je n'ai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Sérieusement ?
Oui,
je connaissais pas. Je connaissais pas cette anecdote. En tout cas, oui, Boris Vian, ça s'appelle Le Déserteur. J'avais envie de passer un extrait de ça juste après cet article. Mais qui est à lire, hein, vraiment qui est à lire et qui, dans le diplôme.
Même on peut écouter le témoignage. Moi, il n'y a pas très longtemps, un peu par hasard, j'ai écouté le témoignage d'un militaire français qui doit avoir 32 ans, qui était à la l'Afghanistan et il racontait sa vie d'après. Et que, voilà, sa fin de sa vie, il a des stress post-traumatiques, il est... c'est pas du tout quelque chose à... Je trouve ça dingue que hauts dirigeants rigolent avec ça, quoi.
Et comme tu dis si bien, c'est une affaire de mec. Quoi. Ah, c'est terrible. Hein. J'ai honte d'être mec.
Non, il y a Florence Parly qui...
À bâton rompu, la suite.
Radio Campus Orléans, vous écoutez l'émission À bâton rompu.
Nous partons maintenant pour la Corne de l'Afrique, tout en bas, le Somaliland, cet état créé après un conflit en 1991, et ce pays qui n'est reconnu par aucun état au monde, sauf Israël.
C'est ça. Donc l'article s'appelle « Somaliland, une reconnaissance incendiaire » par Brendan Novell, qui est chargé de recherche au Cerium, c'est l'Université de Montréal.
Oui, de Montréal, oui.
Le début de l'article commence par le 15 juin 2026 où Hiro, enfin c'est le surnom qui est donné au président, enfin le président entre guillemets parce qu'il n'est pas vraiment reconnu en tant que tel, le président du Somaliland qui inaugure une ambassade en Israël, premier pays du monde à avoir reconnu la souveraineté de Somaliland en décembre 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que le Somaliland ? Parce que moi, je connaissais de nom, mais je ne m'y étais pas intéressé plus que ça. Et bien, en fait, depuis 1991 et le décès du président de la Somalie, le Somaliland, en fait, a fait sécession. La Somalie n'exerce plus d'autorité sur le territoire du Somaliland. Et il revendique son indépendance, du coup, et cherche à devenir un pays comme les autres. Sur quelle base se passe-t-il ? Oh non, c'est très moche. C'est très moche.
C'est pas français.
Peut-être
somalien.
Sur quels éléments se base-t-il ? Eh bien, en fait, faut savoir que le Somaliland a été un protectorat et une colonie britannique.
Tout à fait.
Alors que la Somalie appartenait aux Italiens.
Aux Italiens.
Pendant la colonisation. Ils ont été indépendants quelques jours en 1960 avant d'être rattachés à la Somalie. Et le Somaliland fait valoir aussi, par rapport à la Somalie, qu'il est une sorte d'exception dans la région, qui est effectivement une région très compliquée en matière de guerre civile, d'instabilité politique, etc. Il se présente comme étant un îlot de stabilité, et qui a même des élections pluralistes, même si jamais il y a une tendance un peu autoritaire du pouvoir, mais ça on y reviendra, et un positionnement stratégique sur le golfe d'Aden, donc qui donne accès directement à la mer Rouge. Alors, le but de cette manœuvre de la part du président du Somaliland, c'est de rompre l'isolement diplomatique et d'essayer de pousser le plus de pays possible à reconnaître sa souveraineté.
Bien sûr, bien.
Donc d'abord, ça a passé par Israël, qui est un partenaire stratégique dans la région. Et il y a également beaucoup de lobbying auprès de sénateurs américains, notamment Ted Cruz, qui est le sénateur républicain du Texas, si je m'abuse. Et Mike Evans, qui est un chrétien évangélique, qui font du lobbying auprès de Donald Trump pour la reconnaissance du Somaliland par les États-Unis, qui reste pour le moment un peu frileux, parce qu'ils en voudraient d'apporter une déstabilisation dans la région. Et pour Israël, le but, c'est de sécuriser un partenariat stratégique auprès du détroit de Bab el Mandeb, je m'excuse pour la prononciation, et donc l'accès à la mer Rouge. Un autre acteur régional qui s'est rapproché du Somaliland, ce sont les Émirats Arabes Unis, grand allié d'Israël.
Bien sûr.
Appui politique et financier de plusieurs mouvements sécessionnistes dans la région. En fait, les Émirats Arabes Unis financent beaucoup de mouvements sécessionnistes dans la région. Contrairement à l'Arabie Saoudite qui a tendance à plutôt se placer du côté des dirigeants, que ce soit au Soudan, en Libye, au Puntland ou dans d'autres trucs. Et il y a également d'autres acteurs qui interviennent dans la région, le Qatar, l'Égypte, la Turquie, le Pakistan. Bon, je ne vais pas tout citer parce que ça fourmille vraiment dans l'article.
Mais c'est un vrai bordel.
C'est un vrai bordel, ouais.
Avec toujours, et ça revient à ce que nous disait Henri tout à l'heure sur... l'article sur comment ça se refait les forces entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. J'aime aucun des deux, vraiment. Quoi. Mais les Émirats Arabes Unis sont...
MBS et MBZ.
MBZ. Et en fait,
qui ne peut pas se piffrer.
Mais je crois que je préfère... Je pardonne un peu plus de trucs à MBS quand même. Mais MBZ, ce sont des jeunes gens qui viennent d'une famille... Ils sont lettrés en plus aux Émirats Arabes Unis, là. Mais ils ont fait des études, en fait. Mais simplement, ils sont devenus arriérés pour des questions de force par rapport à l'Arabie Saoudite. Des connards. Non, continue.
Bon, on a quelques difficultés quand même pour le Somaliland. La partie orientale s'est détachée pour rejoindre la Somalie, ce qu'on appelle les États de l'Est. Et il y a des tensions toujours retentissantes entre Mogadiscio, donc la capitale de la Somalie, et Hargeisa, la capitale du Somaliland.
Hargeisa. Bon,
hein ?
Hargeisa.
Hargeisa, pardon. Je m'excuse pour la prononciation.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Bon, même si jamais l'article souligne quand même que du fait de la guerre civile qui se déroule actuellement encore en Somalie, la Somalie n'a que peu de moyens militaires pour pouvoir mettre au pas le Somaliland. Enfin, ce serait vraiment extraordinaire si jamais ça se passait. Voilà, il y a des difficultés en Somalie, donc une guerre civile qui date depuis 2020 contre le mouvement Al-Shabaab, une milice djihadiste qui contrôle quand même un tiers du territoire de la Somalie. C'est pas rien, hein ? Et voilà, il y a le Puntland qui est un état à l'est, vraiment tout au bout de la corne de l'Afrique, qui a des velléités d'indépendance. Et il y a des crises politiques graves qui se sont déroulées ces derniers temps, notamment un report des élections, des répressions féroces de l'opposition. Et tout ça s'est fait avec le soutien d'Ankara, bien évidemment, parce que la Turquie a des billes dans la région.
Mais on les avait oubliés tout à l'heure, mais ils sont là aussi.
Oui, 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 ils sont là. Ils ont investi énormément d'argent dans dans le port de Mogadiscio et dans des entreprises stratégiques là-bas. Mmh. Et ils ont une base militaire aussi, qui est la première base militaire en termes de nombre à l'extérieur des frontières de la Turquie. Donc voilà, c'est pas rien. À côté de ça, l'Éthiopie s'est rapprochée du Somaliland également. Pourquoi ? Parce qu'elle se sent encerclée, en fait. Il y a une espèce de coalition autour de l'Éthiopie, financée en grande partie par l'Égypte et par l'Arabie Saoudite. Mmh. Pour chercher à contenir le pays. Alors, j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais apparemment, ça semble être un axe.
C'est ancestral.
C'est ancestral ?
Ah oui, c'est ancestral. Le conflit entre l'Éthiopie et la Somalie, ça date des années. Les peuples sont les mêmes, mais simplement, il y a cette question de l'Éthiopie qui, dans l'histoire, est l'un des pays les plus anciens d'Afrique.
Oui, oui,
l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Il y a eu une présence italienne, mais l'Italie n'est pas restée. Sauf que la Somalie a été colonisée par l'Italie. Et ce conflit, comme toi, je m'y suis intéressé pendant quelques temps, mais je ne la comprends pas vraiment. Voilà. Mais bon, mais c'est ancestral. Donc, l'Éthiopie ne peut jamais s'asseoir autour d'une table sereinement avec la Somalie.
D'accord.
Donc, on ne cherche pas à comprendre, en fait. C'était ça le. On va savoir.
Mais c'est
ça.
Comme les gens qui se détestent depuis des générations. Mais on ne sait même plus pourquoi.
Voilà, donc.
Mais ils se détestent.
Comme en Corse, là.
Oui.
Vous savez.
Donc, c'est ça. Donc, pour damer le pied un peu à Mogadiscio, Addis Abeba, donc la capitale de l'Éthiopie, s'est rapproché du Somaliland, ce qui lui permet également d'avoir un accès à la mer.
À la mer.
Parce que, en fait, depuis l'indépendance de l'Érythrée, l'Éthiopie est un pays enclavé, ce qui n'est pas terrible d'un point de vue de développement économique et stratégique. Donc, voilà.
Et le port d'Hargeisa est un des ports qui marche le plus en Afrique.
Mm-hmm.
Vraiment. Et la Somaliland a donc de l'argent. C'est pour ça que ce conflit ne s'arrêtera pas, je pense.
Ouais.
Mais bon.
Enfin bref, la Somaliland est au cœur d'une situation explosive où se joue le théâtre d'influence de puissance régionale. L'article était assez compliqué à lire, j'ai trouvé, dans l'ensemble. Mais il ne fait qu'une page, donc si jamais vous avez l'occasion de le lire ou de le relire, moi j'ai dû le lire deux fois quand même pour être sûr de bien comprendre tous les enjeux. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre un peu plus sur ce petit pays en devenir.
Absolument.
Et qui deviendra peut-être avec la reconnaissance des États-Unis. J'imagine qu'après, le reste de l'Europe suivra. Oui. Donc,
Je ne suis pas sûr. J'espère que non. Je touche du bois pendant que.
Ah, bah pourquoi t'espères que non ?
Il ne faut pas reconnaître la Somalie du Somaliland. Enfin, voilà, ce n'est pas possible non plus de multiplier les pays en Afrique. Et puis, ce pays n'existe que sur des considérations politicardes et d'économie. Mais. Il y a beaucoup de mafias de ce côté-là qui viennent de Somaliland. Et puis surtout, la position de mon pays maintenant, la France, Djibouti n'est pas loin.
Mmh.
Ces gens-là, s'ils prennent le Somaliland, ils peuvent venir nous emmerder en Djibouti. Voilà, voilà le truc. Donc,
Oui, et puis c'est qu'il y a une carte avec cet article et on voit il y a des conflits partout. Il y a au Soudan, au nord.
Ah là là, oui.
Il y a évidemment en Somalie même, juste au sud. Il y a vous traversez le.
Il y a les Houthis, toi, j'en ai pas parlé.
Yémen.
Ah là là, oui.
Et puis un peu plus loin, l'Iran.
Il y a l'Iran. Ah oui.
Voilà. Ça chauffe de partout et c'est un pays qui se voudrait un modèle de stabilité. C'est vrai qu'ils ont du mal, Bichette.
C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Hassan, c'est ancestral.
Oui, c'est ça. Mais c'est des conflits qui sont, qu'on ne comprend pas vraiment aider. En fait, le problème, c'est qu'entre l'Éthiopie et la Somalie, notamment, les populations sont les mêmes. Mais il y a des cousins qui se font la guerre dans les familles depuis 100 ans presque. Je n'arrive pas à comprendre. Et derrière ça, pour finir, pour répondre à ta question, je n'aime pas bien l'idée de ce que fait Israël derrière, avec Trump qui arrive, et Trump ne pense qu'à l'argent. Le port d'Argeisha, c'est un des ports, je crois que c'est le troisième port en Afrique qui ramène de l'argent. Donc il place ces gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de Trump qui sont là-bas déjà. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui va se passer si Trump...
C'est assez cocasse de voir Israël être le premier à reconnaître ce pays. La Palestine, ils vont la reconnaître quand ?
Non, mais... mais je crois qu'Israël avait proposé à un moment quand il... Netanyahou, hein. D'ailleurs, il y a des élections, là, on va parler dans cette saison. Il y a des élections dans un mois en Israël, on touche du bois en même temps pour que le gars Netanyahou dégage, mais il avait proposé qu'on envoie des Palestiniens là-bas.
Ah oui.
Voyez-vous ?
En Éthiopie. J'ai vu d'ailleurs récemment, il y a un scandale qui est sorti là. Apparemment, tu sais, il y avait eu une grande campagne de rapatriement des Juifs d'Éthiopie.
Oui, Falacha.
Les Falachas, oui, pendant les années 90-2000, je crois.
Oui, c'est ça.
Et en fait, Israël a reconnu officiellement qu'en fait, ils avaient pratiqué des. Comment on appelle ça ?
Des sévices sur les gens.
Non, pour les rendre infertiles.
Oui, bien sûr, mais
qu'ils avaient peur qu'il y ait une surpopulation de noirs qui viennent polluer le sang.
Et c'est complètement vrai, c'est un scandale qui est
éclaté il y a pas longtemps.
Oui, bien sûr. Et puis alors les Falachas sont les populations qui souffrent le plus en ce moment en Israël. Parce que pas reconnus, méprisés, alors que leur départ d'Afrique était narré dans la presse comme le truc les Éthiopiens qui retournent à la terre promise, enfin voilà, vous voyez tout ça. Bon, je vais pas en dire plus parce que peut-être on va dire que je suis antisémitisme. Allez, la suite.
À bâton rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
La fin qui vient, Pierre, on va mourir de faim bientôt.
Ouais, et c'est bientôt la fin, tous les orthographes de faim qu'on veut, hein. C'est un article sur la nature, c'est un article qui a été censé... Moi, quand je l'ai commencé à le lire, remarque, le titre m'avait mis sur...
C'est une de page en plus, moi c'est le premier article que j'ai lu, je crois.
La fatalité de cet été, on a tous baigné dedans, il fait trop chaud, il y a des canicules à répétition, et puis ça n'arrête pas, et puis il y a des feux... Et puis, on a tous vécu ça, hein, 100 000 hectares qui ont brûlé en Espagne, en France, en Europe, dans le monde entier. Ça brûle de partout. Donc, on peut se demander si c'est une fatalité. Et c'est ce que pose comme question cet article.
Oui, comme question.
Et qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qui va se passer ? Heureusement, l'automne arrive et manque de peau après des... la canicule, on risque d'avoir des pluies torrentielles.
Ça a commencé cet après-midi, vous avez vu ?
Ah oui, c'est vrai.
Ça a duré 10 minutes, le temps de l'embouiller.
C'était pas torrentiel, mais il a plu. Il y a même encore plus grave, c'est El Niño qui arrive.
Vous avez entendu
parler de ça.
Ouais.
Pour cet hiver. Alors, c'est du côté du Pacifique. Par contre, il y a des sécheresses d'un côté et des pluies torrentielles de l'autre. Est-ce que c'est une fatalité tout ça ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Bien sûr qu'on le sait, mais la question que l'on pose... Il y a un moment, il parle des rochers de la faim.
Oui, c'est ça. C'est excellent comme truc. J'ai découvert ça dans cet article.
C'est étonnant. Ouais. C'est dans le Danube, je crois. C'est dans les fleuves qui baissent.
Dans le Danube et dans l'Elbe. Ça va t'intéresser.
C'est des marqueurs de sécheresse exceptionnels il y a très très longtemps qu'on a revu cet été.
C'est ça. Ça a démarré. Alors, ils ont découvert 1472, je crois, les premiers. Et il y a quand même un rocher où il y a cette inscription. Si tu me lis, aie peur.
Ouais.
C'est quand même
le rocher de la faim.
Le rocher de la faim, oui.
Ouais. Du coup, voilà, on en est là. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Il va falloir se remonter les manches. Le problème, c'est que la politique s'emmène. Et on a le conflit, deux conflits qui aggravent la situation, la Russie et l'Ukraine, bien sûr, parce qu'on se rend compte que, finalement, ils étaient pourvoyeurs de 30% des céréales, etc., qu'on importait de là-bas, et des poulets, tout ça. Et comme ils se tapent dessus et qu'ils font couler les bateaux, et ben, ça arrive moins, et du coup, ça aggrave la situation. Donc là, la fatalité, on commence à avoir des doutes. Le conflit de M. Trump en Iran, qui pensait régler en 3 semaines, on l'a évoqué tout à l'heure, là. Les Iraniens qui se sont rendus compte qu'ils avaient le détroit d'Ormuz et que c'était bien pratique. Et du coup, le problème, c'est que ça a également une des conséquences sur l'agriculture, c'est que y a des produits qui n'arrivent plus, et notamment pour faire de l'engrais. Donc non seulement les cultures sont appauvries, mais en plus, il n'y a plus d'engrais. D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous avez essayé de manger de la salade cet été. Incroyable, il n'y a plus de salade.
Eh oui.
Comme quoi. Est-ce que c'est une fatalité? On ne sait pas, on commence à avoir des doutes. Et l'article conclut en disant que le pire du pire, c'est qu'il y a des gens qui vont faire de la spéculation.
La spéculation là-dessus. Évidemment, évidemment ça a commencé. Hein, et pour répondre à ta question sur est-ce une fatalité ? Non, parce qu'il y a des gens qui en parlent depuis longtemps, notamment nous la semaine prochaine. Dans ce studio, nous recevons Gonéry Le Causané, qui est au BRGM et qui est un des rédacteurs du GIEC. Et ça fait combien de temps, Victor ? 4 ans au moins qu'il vient nous parler, à peu près.
Oui, sans doute, 3 ans, je dirais.
Où il avait dit ça, mais par contre, je crois qu'il est très étonné également par la force de cette canicule. Il y a 4 ans déjà, il nous disait on connaîtra des périodes de forte chaleur, même de canicule, à répétition. Et donc, mais ces scientifiques sont toujours. Moi, je les trouve un peu trop gentils parce qu'ils devraient gueuler.
Ils crient dans le désert.
Ils devraient gueuler parce que ça fait des années, ça fait 50 ans, je crois, que les premières préconisations auprès des politiques, c'est ça, c'est 40-50 ans.
Et cela dit, avec la fin FIM, peut-être qu'on va les écouter.
Peut-être.
On va finir par les écouter. Alors évidemment, il n'y a aucune fatalité là-dedans. Hein. C'était une question rhétorique.
Ouais, mais voilà, il faut qu'il y ait des émeutes de la faim. Il y en a eu. Hein. Dans certains pays, ça fait tomber des gouvernements. Je ne sais pas si ça arrivera en Europe, mais il y a eu des pays en Afrique, en Asie.
Au niveau des projections dans ce qu'on va produire en France, effectivement, il est possible que tu aies tellement de sécheresse qu'au final, on n'arrive plus à produire de nourriture pour être autosuffisant. Du coup, on va importer, mais ça veut dire qu'on va faire les famines ailleurs. On va les délocaliser dans les pays du tiers-monde.
Nous sommes d'accord.
Est-ce que j'ai le temps d'évoquer un dernier article ?
Oui, parce qu'il y a un article que tu souhaitais peut-être en parler, c'est les vignerons, le monde viticole.
Oui, je voulais l'évoquer.
Dans le sud, qui sont chassés aussi par le réchauffement.
Qui sont chassés. Alors, si vous lisez cet article-là, vous allez voir qu'en fait, il prend deux cas. Il y a des gens qui restent coûte que coûte et qui essayent de faire avec la sécheresse. Donc, ils changent les pieds de vigne, puis ils se diversifient, ils font du miel ou je ne sais quoi. Et puis, c'est difficile parce que, il n'a pas plu depuis des mois et des mois, et donc ça devient terrible. Et donc, les vignerons émigrent vers le nord. Donc, il prend des cas de gens qui vont en Bretagne, qui vont au Saumur, et on fait même du vin maintenant en Angleterre.
Oh mon Dieu, quelle horreur!
Non.
Ils ont quadruplé leur production en 10 ans. Tant qu'on n'est pas obligé de le boire.
Moi, je goûte des vins californiens, finalement.
Ils sont pas
c'est autre chose.
La Californie, c'est pas le même climat, quoi.
Enfin, mais on peut imaginer qu'en Angleterre, un jour, ils font du vin, du bon vin.
Pourquoi pas?
Mais c'est plutôt des buveurs de bière.
J'y crois moyen. Le vin anglais, j'y crois moyen.
Donc voilà, les vignerons émigrent vers le nord avec le climat qui surchauffe. Donc, de toute façon, ils disent aussi qu'on boit de toute façon de moins en moins de vin. Donc,
on a besoin de moins en plus. Ah ouais.
Ah bon?
Qui a... Oui. Mais c'est moi.
Ah bon. Non, mais les jeunes, pour le coup, je trouve que t'as vraiment une... Déjà, rien que ceux qu'on a à la radio qui débarquent, qui sont en licence, etc. Et tout. Et moi, à l'ERTS, je le vois, les jeunes, ils fument moins, ils boivent moins, ils sont plus sages. Hein.
C'est peut-être eux qui ont raison, du coup.
Bah, je sais pas. En tout cas, ils vont niquer leur santé moins vite que notre génération.
C'est ça. C'est ça.
Ouais, mais nous, on lutte, quoi. Et on aime beaucoup les produits locaux.
Mais c'est ça, c'est pour ça. Ouais. Moi, je bois du vin parce que c'est produit.
C'est pour aider les producteurs locaux.
La France, voilà, tout ça. Oui, non, mais cet article à lire absolument pour connaître le monde de demain, quoi, qui n'est pas top quand même.
Hein. Ouais, voilà, exactement. Il y a de quoi s'inquiéter.
Ouais. Pour finir, parce qu'on a encore 10 minutes, est-ce qu'on dit un mot? Parce que Asma, tu avais choisi aussi un article sur les femmes journalistes.
Oui, je l'ai lu aussi. Un article
qui retrace les femmes dans le journalisme depuis les années 30 à peu près.
C'est ça. Ce sont les années où
elles entrent un peu.
Il y a eu quelques journaux dans les années 1820 à peu près, je crois. Mm. Mais en 1930, il y a des femmes qui arrivent et qui prennent des places. C'est-à-dire que les premiers éditoriaux.
Elles sont 3% femmes, à l'époque, je crois.
Bah oui.
3,5.
C'est pour ça que dans cet article,
je veux bien être de ton côté, mais n'en demande pas plus non plus.
On se doute un peu de ce que ça dit, quoi.
Oui, bien sûr. Et fondamentalement, ce sont des journalistes qui ont laissé leur nom. Enfin, il suffit de lire un peu pour savoir qui elles sont. Mais ça reste toujours un métier. Tu en parleras après. Ça reste toujours un métier d'homme, vraiment. Hein,
oui, toujours. Voilà. Bien sûr.
Mais à l'époque, c'est la révolution que ça représente, Henri, hein, que ce qui était important.
Oui, alors qu'il n'y avait pas le droit de vote pour les femmes à l'époque. Ben, et donc, le rappeler, dans les années 30,
1944,
comme Asma vient de le dire, il y en avait très peu. Ouais. Et donc, elles vont militer justement pour avoir le droit de vote. Et puis, en prenant de la place dans les rédactions, petit à petit, elles font leur place. Alors, c'est vraiment un mouvement lent parce que, en l'occurrence, actuellement encore, je suppose que les postes majeurs sont pas toujours occupés, sont plutôt occupés par des hommes, c'est sûr.
Ah, bah, ça faut demander à Asma,
Pendant longtemps, elle ne faisait pas les éditos.
Non, en fait, il y a un truc intéressant, c'est que même quand les postes. C'est pas forcément qu'il y ait plus d'hommes ou plus de femmes, c'est que la dynamique est masculine.
Bien sûr.
C'est un métier évidemment. Où il y a une dynamique masculine. Mmh. Où peut-être même les femmes adoptent des codes masculins.
Mais c'est exactement ça la question.
C'est très genré. Et au début, elles étaient cantonnées aux chroniques. C'est marrant ça, l'édito, c'est masculin. Oui. C'était homme qui faisait l'édito. Qui avait une vision globale. Il y a un côté science dans l'édito, quoi. C'est assez poussé. Et au début, elles étaient sur les chroniques, avec des thèmes plutôt dans la mode, décoration, couture.
Oui.
Donc, voilà. C'est...
Et après, c'est l'occasion de souligner ces pionnières. Hein,
mais peut-être même quand elles s'emparent des sujets politiques, c'est des politiques féministes, d'éducation, de culture, ces choses comme ça. C'est assez genré, donc.
Oui. Effectivement, c'est un phénomène qui perdure, et donc. Moi, j'ai appris des noms, du coup, effectivement.
Ouais, il faut les citer,
Simone Théry était peut-être un peu plus connue, mais effectivement, elles étaient d'un courage à l'époque phénoménal, parce qu'elles suivre la guerre d'Espagne alors que tu es une femme, il faut le faire, et elles ont pu quelques-unes au départ, faire leur place et avoir un certain écho.
On parle beaucoup de Frank Capra, tu parlais de la guerre d'Espagne, mais c'est sa compagne, je ne me rappelle plus de son nom tout de suite là, mais c'est, elle a fait plus de clichés à l'époque que lui en fait. Mm-hmm. Mais son nom n'est sorti que très très récemment. Et elle a fait des chroniques pour des journaux américains depuis la guerre d'Espagne en 1936. Mais moi, il y avait des... Bon, le nom n'est pas cité dans l'article. J'ai découvert une dame qui s'appelle... Enfin, elle avait un surnom, je crois. Elle signait Séverine. Elle s'appelle Caroline Rémy, avec un Y. À mes auditeurs et surtout auditrices, si vous pouvez googliser ce nom, Caroline Rémy. Elle était surnommée la princesse du journalisme. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps pour... Vraiment, je vous jure que c'était une dame qui était... Et puis surtout, il y a un journal qui a été créé en 1897 qui s'appelle La Fronde.
Ah oui.
Tu connaissais La Fronde.
Mmh. Oui.
Ouais, et c'était, c'est le premier quotidien d'information qui parlait de politique et mais qui a, elle a eu plein de procès la fondatrice. C'est voilà et ça a duré comme ça quand même jusqu'à entre les deux guerres je crois et donc 1930. Mmh. Donc voilà. Voilà.
La Fronde qui a été créée par Marguerite Durand.
Marguerite Durand. Voilà. C'est ça. Mais oh oui, non, mais allez lire, hein, allez voir la vie de Caroline Rémy. Quelle dame, quelle femme. Voilà. On a fini
et on a fait le tour, je pense.
On a fait le tour. On revient le mois prochain. On parlera de l'Allemagne, hein, vraiment, parce qu'en plus,
oui.
Marie-Pierre qui y est, elle y est pendant les élections, là.
On touche
du bois pour que l'AFD ne prenne pas d'autres régions. Mmh. Ça montrait la voie à certains en France là que je déteste. Ça sera pas bien. Restez dans le combat, les amis. Merci, c'était la première d'Abattons Rompus pour cette saison. On reviendra tous les mardis et le mois prochain, le deuxième mardi du mois, avec vous pour parler du diplôme. Merci à vous. On va finir cette émission.
Merci à toi, Hassan.
Merci.
En musique, parce qu'on a un peu le temps. C'est un hommage à Dolly Parton, vous vous rappelez de cette dame?
Ah oui, une grande dame de la country.
T'as mis Jolene ou...
Non, j'ai pris autre chose. Vous savez qu'on termine toujours par un son un peu reggae. Dolly Parton, hein, voilà, icône de la country, de la pop. Mais elle a fait des incursions dans d'autres musiques, notamment là avec Ladysmith Black Mambazo, c'est un groupe sud-africain dans les années 70. Et ils reprennent... Knocking on Heaven's Door.
Ah, d'accord.
Et c'est de qui ça, Knocking on Heaven's Door?
C'est Bob Dylan.
Bob Dylan. Merci à vous. Mardi prochain, Gonéry de Causané. Passez une bonne semaine. Ride on juste derrière sur Radio Campus Orléans. Take this badge off of me. Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark. Cause I can't shoot them anymore. That long black cloud is following me. Feel like I'm knocking on heaven's door.
I don't forget.
Yes.
Hassan,
entends?
Bâton rompu. Rompu 88.3, la donne programme. Ride on program. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door.
Yes, yes, yes. Radou sur le micro qui fonctionne bien. Hassan. C'était à bâton rompu. Merci à toute l'équipe. Le Ride On programme de retour. Une nouvelle saison. Merci à Radio Campus, toute cette équipe. C'est un plaisir d'être là. J'ai hâte de revenir. Et ce soir, c'est Alex et Jacob qui vont assurer l'émission.